le magazine des Nations Unies.
Léla Zerougui se veut optimiste et va jouer son rôle jusqu'au bout pour le respect des fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre pour des élections crédibles, inclusives et transparentes en RDC. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU l'a dit haut et fort jeudi dernier au cours de son premier face-à-face avec la presse à Kinshasa. Le 29 mai, c'était la journée internationale des casques bleus, une occasion pour Léla Zerougui encore de rendre hommage aux casques bleus morts depuis le déploiement de la MONUSCO en 1999. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée au quartier général de la mission à Kinshasa et à laquelle le gouvernement congolais a été représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Les détails dans cette édition. Relance agricole en RDC, le FIDA, Fonds international de développement agricole, relance son partenariat avec la RDC après 17 mois de suspension. Le FIDA annonce un décaissement de 37 millions de dollars américains pour financer des projets agricoles dans le pays.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Après un peu plus de 100 jours de gestion à la tête de la MONUSCO, Léla Zerougui a eu son premier face-à-face avec la presse congolaise internationale. C'était le jeudi 31 mai dernier au quartier général de la mission. Un reportage d'Honoré Missenga Kalala.
Concernant le processus politique et électoral en RDC, Léla Zerougui a dit être optimiste et continue à jouer le rôle que lui a confié le Conseil de sécurité dans la résolution 2409.
On a un calendrier, on a un accord politique, le gouvernement et la majorité se préparent, l'opposition se prépare, il y a des divergences. Mon rôle en tant que bureau de bons offices, j'essaie de les rapprocher, j'essaie de les convaincre que c'est dans l'intérêt de tous que ces élections se tiennent, et pas seulement elles se tiennent. Elles se tiennent avec des préalables, l'inclusivité pour leur donner la crédibilité qu'il faut, parce qu'on ne peut pas juste organiser des élections et après on a la catastrophe qui se déclenche. Nous avons un mandat, le Conseil de sécurité nous dit d'appuyer les élections crédibles, inclusives et transparentes.
Dans le chapitre de la protection des civils et de la lutte contre les forces négatives, la représentante spéciale a mis un accent sur la nécessité de mettre en œuvre des stratégies globales, incluant la lutte contre l'impunité.
C'est l'impunité qui généralise le crime. Lorsque les gens savent qu'il y a un prix à payer et c'est lourd, les dynamiques changent. Lorsque vous arrêtez des responsables de haut niveau, le chef de groupe ou son adjoint et vous les jugez, vous verrez que les autres y réfléchiront par deux fois.
Par ailleurs, face au scepticisme des uns et des autres quant à la tenue effective des élections crédibles, inclusives et transparentes en décembre 2018, la chef de la MONUSCO a insisté sur le fait qu'elle n'a pas le pouvoir de changer les choses et laissait plutôt de convaincre ceux qui détiennent ce pouvoir pour faire en sorte que la case ne brûle pas.
Avant sa conférence de presse de jeudi, la représentante spéciale a présidé deux jours plus tôt la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale des casques bleus. Léonard Cheokitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, était à la tête de la délégation gouvernementale à cette cérémonie. Les détails, une fois encore, avec Honoré Missenga Kalala.
Le chef de la diplomatie congolaise était le premier à prendre la parole, d'abord pour reconnaître notamment la vaillance et l'engagement des casques bleus et saluer leur professionnalisme ainsi que leur abnégation à travers le monde. Cependant, pour le vice-premier ministre congolais, les conflits actuels étant d'une toute autre typologie qu'autrefois, cela implique que les Nations Unies changent de méthode pour plus d'efficacité et plus de performance au sein des missions de maintien de la paix, citant en exemple probant l'image de la brigade d'intervention dans l'Est de la RDC.
La République démocratique du Congo, comme tant d'autres pays, réclame le redimensionnement des forces de maintien de la paix en lieu et place de contingents pléthoriques.
Côté Nations Unies, Léla Zerougui a rendu hommage aux casques bleus de par le monde et rappelé les sacrifices consentis par ces derniers en République démocratique du Congo.
Dans la recherche de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo, des milliers de Congolais ont perdu leur vie. Il en est de même aux Nations Unies où 327 collègues sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis 1999.
La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a souligné de ce fait qu'en RDC comme ailleurs, le maintien de la paix est devenu extrêmement dangereux. Mais ces dangers ne sont pas nouveaux, à l'image, a-t-elle rappelé encore, de 250 membres du personnel de l'ONU, dont le secrétaire général de l'époque, qui avait rendu la vie au cours de la première mission de maintien de la paix déployée en 1960 au Congo.
Comme annoncé dans le sommaire, les travaux de l'atelier du portefeuille du FIDA se sont achevés mercredi dernier à Kinshasa. Ils ont accouché d'une nette mémoire assortie des recommandations sur la relance du partenariat entre le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement congolais. Jean-Pierre Lali Coco pour le reportage.
La revue conjointe du portefeuille du FIDA en RDC propose une feuille de route pour la relance rapide et accélérée des projets et de la levée de la suspension de novembre 2017. Dans les recommandations, Abdelak Hanafi, directeur pays et représentant des FIDA en RDC, propose les priorités suivantes.
Premièrement, la prorogation de Papakine de 3 ans avec une relance rapide. Deuxièmement, l'achèvement du PIRAM avec une bonne performance entre juillet 2018 et décembre 2018. Troisièmement, lancement rapide du Passa Inca par la sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel.
Pour ce faire, le FIDA s'est engagé à débloquer 37 millions de dollars en septembre prochain. Même engagement aussi de la part du gouvernement congolais par la bouche du secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Évariste Boshabo.
La partie congolaise s'engage à accompagner les unités de gestion des programmes avec l'appui du bureau du pays FIDA dans les suivis rapprochée de la mise en œuvre des recommandations.
Les recommandations validées lors des assises de Kinshasa devront être au préalable adoptées par la direction générale du FIDA avant la levée de la suspension qui devra intervenir en principe le 30 juin prochain.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comment et pourquoi faire le monitoring des manifestations? C'était l'un des thèmes de l'atelier organisé par le Bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme, au bénéfice du personnel de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Ali Doung Pana, coordonnateur du BCNUDH Kinshasa, s'est prêté aux questions d'Honorimi Senga Kalala sur ce thème. Suivez leur entretien.
Ali Doung Pana, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de parler du monitoring des manifestations au personnel de la CNDH. C'est quoi le monitoring?
Le monitoring, c'est l'ensemble d'activités qui permettent de collecter des informations. Donc ce sont des activités de collecte active d'informations en vue de rédiger des rapports qui permettront d'améliorer la situation des droits de l'homme.
Le monitoring peut porter sur quoi?
En matière de droits de l'homme, le monitoring porte sur beaucoup de choses. Il peut porter sur l'observation de la situation en général, l'observation de certains événements, par exemple le monitoring des manifestations, le monitoring de la période électorale, ou bien qui peut concerner des thèmes, par exemple le monitoring des prisons, le monitoring des détentions.
À quoi finalement va servir le monitoring?
Oui. Le monitoring sert aux organisations qui le font d'avoir des informations à disposition pour pouvoir s'informer et s'informer afin de prendre des actions permettant de remédier à une situation donnée, d'améliorer la situation des droits de l'homme ou de recommander à des autorités qui peuvent prendre des mesures qu'elles le prennent pour pouvoir faire stopper une violation ou améliorer la situation des droits de l'homme.
Alors, comment se comporter sur le lieu de la manifestation tout en faisant son monitoring?
L'élément le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est la sécurité. On ne peut pas faire le monitoring d'une manifestation si les conditions de sécurité ne le permettent pas. Ensuite, il faut avoir des attitudes professionnelles, montrer sa neutralité, montrer son indépendance et son professionnalisme. Lorsqu'on est moniteur sur le terrain, pendant les manifestations, on est confronté à des acteurs, les organisateurs des manifestations, les manifestants eux-mêmes, les autorités, les forces de l'ordre et de sécurité. Et en tant que moniteur, on doit être visible par toutes ces personnes-là pour qu'on sache que nous sommes sur le terrain pour monitorer et aussi que la présence sur le terrain soit une présence dissuasive en termes de violation des droits de l'homme, mais aussi que cette présence n'interfère pas sur la manifestation. Donc celui qui doit faire le monitoring doit s'assurer de collecter les informations permettant à vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle aux libertés publiques, à l'exercice des libertés publiques, de permettre de vérifier que le droit de ne pas manifester, par exemple, est également respecté et que la police n'utilise pas la force de manière disproportionnée.
Alors, quand vous parlez de l'indépendance et de l'impartialité, c'est par rapport aux différents acteurs que vous venez de citer?
Oui, par rapport aux différents acteurs, par rapport aux manifestants eux-mêmes, par rapport aux autorités qui sont sur le terrain et par rapport aux partis en présence. On doit pouvoir retranscrire ce qui s'est passé sur le terrain sans parti pris. Et cela doit se voir dans les attitudes des manifestants. Et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message aux membres de la CNDH qui sont présents ici.
Alors, qu'est-ce que vous attendez justement des membres de la CNDH dans le contexte actuel en organisant ce genre d'atelier?
Oui, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a pour entre autres missions d'appuyer l'institution nationale en matière de droits de l'homme. La référence en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo devrait être la CNDH. Et la CNDH a un rôle à jouer, un rôle très important à jouer pendant cette période préélectorale et pendant les élections, y compris pendant la période postélectorale. Ce que nous essayons de faire, c'est d'accompagner la CNDH pour que celle-ci puisse se doter des outils lui permettant de bien faire son travail. Et nous espérons qu'après cette formation, on pourra aboutir à l'élaboration des outils de collecte d'informations pendant les manifestations, les méthodes appropriées de gestion de cette information et les techniques de plaidoyer et de rapport quant à l'information qui a été collectée.
Oui, mais en attendant, vous allez continuer, c'est-à-dire le bureau conjoint va continuer à faire son travail, à faire le monitoring comme il le fait toujours.
Nous continuons de faire le monitoring, c'est notre responsabilité également, mais c'est un travail complémentaire avec les autres acteurs sur le terrain. Nous sommes en appui aux institutions nationales. Normalement, il appartient à la CNDH, aux organisations de la société civile et aux ONG de défense des droits de l'homme de faire le monitoring. Nous ne sommes là que pour les appuyer à mieux faire le travail. Et progressivement, avec les formations que nous faisons, avec notre programme d'assistance technique, il y a des avancées et bientôt, ces organisations pourront travailler de manière efficace, on l'espère.
Oui, on peut aussi envisager des monitorings mixtes, donc bureau conjoint CNDH.
Oui, pendant cette formation, pendant l'atelier, nous avons émis ce souhait-là d'accompagner les membres de la CNDH sur le terrain pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir développer des attitudes, des aptitudes et coacher en quelque sorte les membres de la CNDH pour pouvoir apprendre de leur expérience également lorsque nous faisons le monitoring.
Ali Dungapna, Radio Kapi vous remercie.
Commençons par cet accident d'un avion du PAM, Programme Alimentaire Mondial, utilisé par le service humanitaire aérien des Nations Unies, UNAS. L'accident est intervenu mercredi dernier au décollage sur une piste d'atterrissage située à Kamunia, dans la province du Kasaï. Bilan, 2 membres d'équipage et 3 passagers légèrement blessés, selon le PAM. Ils ont été emmenés dans un établissement médical local où un hélicoptère de la MONUSCO a été mobilisé pour les évacuer de Kamunia à Kananga, où un autre avion de UNAS les attendait pour un transfert à Kinshasa. La cause de l'accident est en cours d'investigation. Kinshasa, à présent, le service anti-mine des Nations Unies, UNAS, a remis symboliquement 2 des 277 coffres-forts d'armes aux unités de la police nationale congolaise. C'était lundi dernier au cours d'une cérémonie au commissariat général de la PNC. Objectif du projet, sécuriser les armes afin de lutter contre leur prolifération et la criminalité dans les grandes villes du pays. Enfin, la MONUSCO, première visite du nouveau commandant des forces de la mission en Ituri, le lieutenant général Elias Rodriguez, est arrivé à Bunia jeudi dernier. Objectif de la mission, évaluer la situation sécuritaire dans la région. Pour lui, la présence des groupes armés en Ituri constitue encore une menace pour la stabilité et le retour de la paix durable dans cette province. Le lieutenant général Elias Rodriguez estime que pour relever ce défi, la MONUSCO doit continuer à collaborer avec les FARDC en vue de neutraliser ces forces négatives.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'INELIT et Agir pour les élections transparentes et apaisées à Utah organisent depuis la semaine dernière une campagne de vulgarisation et de sensibilisation de la loi électorale et de la loi sur la répartition des sièges. Jérôme Bosso, président de la LINELIT et coordonnateur de AETA, est notre invité. Il explique tout l'intérêt et l'importance de cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation de ces deux textes. Jérôme Bosso s'entretient ici avec Jean-Pierre Lally Coco.
Jérôme Bosso, bonjour.
Bonjour, cher ami Jean-Pierre Lally.
Vous êtes président de la LINELIT, coordonnateur de Agir pour les élections transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Vos deux organisations organisent une campagne de vulgarisation et de sensibilisation de la loi électorale et de la loi sur la répartition des sièges. Cette campagne, il faut le dire, coïncide avec l'annonce de la CENI d'afficher les listes électorales, aussi après les recommandations de l'audit qui a été fait sur le fichier électoral. Alors, pourquoi est-ce que vous organisez cette campagne aujourd'hui?
Nous organisons la campagne aujourd'hui, c'est après la publication de la loi électorale par le président de la République, et c'est là aussi après la publication du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante qui a montré les activités qui sont en train d'être réalisées afin d'arriver à la tenue des élections à la date du 23 décembre 2018. Et la campagne, nous l'avons organisée pourquoi? Nous avons lancé cette campagne pour que les uns et les autres, surtout la population cible, les parties prenantes, puissent s'approprier du processus électoral. Ça va se faire avant, pendant et après les élections. Quand on connaît les règles du jeu, c'est comme en football. Quand on sort les cartons rouges, tout le monde est d'accord, oui, l'arbitre a raison de sanctionner tel joueur. Quand la Cour constitutionnelle ou une Cour suprême interviennent pour rejeter la requête dans la gestion du contentieux électoral, et tout le monde dit, ok, on a raison à ce niveau-là. Donc, la maîtrise de loi, des mécanismes, des règles qui régissent le processus électoral, ça va réduire sensiblement les violences et les conflits électoraux. À ce moment-là, les élections vont se tenir dans un environnement apaisé.
Comment concrètement va se dérouler cette campagne?
Nous avons tout d'abord procédé par la production d'un support de vulgarisation. Ce support de vulgarisation est sorti de l'imprimerie sous format de poche. Praticable. Quelqu'un se promène avec ça dans sa veste ou bien dans sa poche.
C'est ça que vous avez devant vous.
C'est ça en main. Mmh. Et ce support va maintenant permettre aux vulgarisateurs que la Ligue nationale pour les élections libérées et transparentes, l'INELIT, et la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, notre plateforme, nous allons donner aux vulgarisateurs que nous avons formés, qui vont pas donner tous les contenus, ils vont prendre de grandes lignes, de grandes idées contenues dans la loi électorale. Mais à cela aussi, nous avons combiné la répartition des sièges. Ce que nous appelons un document de bord qui va permettre au regroupement politique, aux partis politiques, d'ériger des stratégies en fonction du nombre de sièges que le législateur a dégagé pour telle circonscription et le nombre des électeurs enrôlés dans telle circonscription. À ce moment-là, les stratèges de chaque parti politique peuvent maintenant se référer à ces documents, à ces tableaux de bord, qui est la répartition des sièges, afin de rafler tous les sièges possibles.
Vous avez ces documents-là qu'il faut vulgariser. En ce qui concerne les gens qui n'ont pas étudié des illettrés, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vos vulgarisateurs vont descendre sur le terrain pour mener cette campagne auprès des populations illettrées, par exemple?
Nous avons une longue expérience en cette matière. Nous, l'INELIT, une grande expérience et expertise dans cette matière de vulgarisation. Nous connaissons comment atteindre les cibles. C'est par les communications. On doit parler dans la langue du terroir. Nous avons quatre langues officielles, Lingala, Swahili, Kikongo et Chuluba. Mais il y a aussi des dialectes. Parce que les vulgarisateurs sont des gens qui sont recrutés dans le milieu où se trouve la population électorale. Et c'est sur ce vulgarisateur qui vont adapter ce contenu. Pas en français, ils vont adapter la langue du terroir pour que le message puisse bien passer. Et nous avons aussi prévu des scènes de théâtre et des grandes affiches pour le mot-clé contenu dans cette loi électorale pour que ceux qui ne savent pas lire ni écrire, à travers le théâtre, à travers la radio, le message va passer facilement.
Et quelles sont les populations ciblées ou même les endroits ciblés pour mener cette campagne?
Tout d'abord, les partis politiques. Ce sont les partis politiques, au regard de la loi fondamentale qui est la Constitution, on recommande aux partis politiques de contribuer à l'éveil des consciences de la population. Donc la vulgarisation incombe au premier niveau aux partis politiques, que les partis eux-mêmes puissent intérioriser le contenu de cette loi électorale, que nous appelons un vademecum électoral, et ils vont répercuter auprès de leur base, de leurs témoins, ainsi de suite, et à ce moment-là, les uns et les autres vont s'approprier appropriée. Mais il y a un constat amer. Les partis politiques, nombreux ne sont pas seuls là, qui se préoccupent dans la conscientisation de la population. Et surtout dans la vulgarisation des textes de loi. Et même certains leaders de partis politiques n'ont même pas lu la loi électorale. N'ont même pas lu la répartition des sièges. Ils prennent des choses comme ça à l'égide. Mais c'est pourquoi nous disons, nous sommes en train de voir les partis politiques. Nous disponibilisons cet outil, ces supports pédagogiques par parti politique. Nous sommes en train de faire ici à Kinshasa, tout comme en province. Et le groupe cible, ces partis politiques. Le groupe cible, ce sont les organisations, les confessions religieuses. Le groupe cible, ce sont les mouvements de femmes. Le groupe cible, c'est le mouvement des jeunes. Le groupe cible sont aussi les partenaires techniques et financiers. Et quand tout le monde maîtrise les règles du jeu et la procédure, et nous pensons que les élections que nous allons organiser, il y aura peu de contestations, il y aura peu de gestion de contentieux électoraux. À ce moment-là, nous allons conférer aux prochaines élections la crédibilité interne et externe.
Ça a quelle durée cette campagne?
Émile de Jean-Jacques Rousseau disait « Toute ma vie est une école, liberceau au tombeau, éduque-moi ». Donc le processus électoral, c'est un apprentissage du début jusqu'à la fin de sa vie. C'est une école. Donc en République du Congo, nous sommes en train d'expérimenter une autre démocratie qui est jeune. Et une démocratie naissante d'une élection civique et électorale permanente. Si elle est permanente, les gens vont bien comprendre l'environnement électoral et quand on fait les élections, quand on publie les résultats, non à la violence, non au conflit, et on s'incline devant le résultat des urnes.
Vous étiez membre de l'audit de l'OIF et cet audit estime justement à 16% d'enrôlés sans empreinte digitale. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Mbosso, par rapport à la campagne que vous menez?
Oui, plus de 16% de personnes enrôlées sans empreinte digitale, ça montre les soucis des uns et des autres. D'élaguer pour que nous puissions avoir un fichier électoral potable, un fichier électoral qui ne puisse pas contenir de doublons résiduels. Il faut introduire les facteurs corrects. Les facteurs correctifs sont contenus dans une des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'audit, dont nous avons fait partie, pour demander à la CENI tout affaire cessante. La CENI doit continuer à traquer et à publier les listes provisoires pour voir là où il y a des anomalies et qu'on puisse rectifier et arriver à produire les listes électorales fiables. Parce qu'un des enjeux du fichier électoral, c'est la production de listes électorales fiables.
Jérôme Bosso, Radio Capi, vous remercie.
Reçoit à Kinshasa pour la nouvelle de province. La République démocratique du Congo s'engage à mener des démarches en vue de la ratification au protocole additionnel 3 aux conventions de Genève, protocole relatif à l'emblème du cristal rouge de la Croix-Rouge et au respect du droit international humanitaire. C'est ce qu'a déclaré Mme Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits Humains, ce mercredi à la clôture du colloque régional organisé par le CICR à l'occasion du 40e anniversaire des protocoles additionnels aux conventions de Genève. Ce colloque de deux jours avait pour objectif de susciter la réflexion sur ces protocoles additionnels et améliorer leur mise en œuvre en Afrique francophone. Les propos de Marie-Ange Mouchobekwa, recueillis ici par Jean-Pierre Elali Coco.
C'est ici pour moi l'occasion de réitérer le ferme engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo d'entreprendre les démarches nécessaires et ce dans le plus bref délai pour procéder à la ratification du troisième protocole additionnel des conventions de Genève portant sur l'emblème du cristal rouge et l'adoption subséquente d'une loi sur la protection de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, telle qu'annoncée par Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Le gouvernement de la République réitère également par la même occasion son engagement à veiller davantage sur le strict respect des principes du droit international humanitaire.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Les dispositions préventives sont-elles prises contre la propagation du virus à Ebola à Kinshasa? Question posée aux représentants de l'OMS en RDC le 23 mai dernier. Suivez la question et bien évidemment la réponse.
C'est Madame Irène Poy de ISM Online. Docteur Alanga, je voulais bien savoir quelles sont les mesures préventives que vous avez prises pour que le virus Ebola ne soit pas propagé dans la ville de Kinshasa. Merci.
Merci madame. Je crois que depuis que l'épidémie a commencé dans la province de l'Équateur, des dispositions sont effectivement prises à Kinshasa. Vous savez bien que entre Mbandaka et Kinshasa, entre Bikoro et Kinshasa, il y a des voies navigables. Donc les gens quittent par bateau Mbandaka pour venir à Kinshasa. Aussi bien de Bikoro, les gens arrivent à Kinshasa. Donc depuis lors, des dispositions ont été prises de faire en sorte que les gens qui arrivent par ces bateaux, il y a des équipes qui sont au niveau des ports pour pouvoir faire le contrôle sanitaire. Et ça, ça se fait de manière systématique depuis le début de l'épidémie. Les deuxièmes mesures qui ont été prises, c'est au niveau des formations sanitaires ici à Kinshasa. Depuis la semaine dernière, les responsables de tous les hôpitaux de Kinshasa, les responsables des centres de santé ont été regroupés pour être sensibilisés, de sorte que s'il y a une alerte quelconque, que cette alerte puisse être vraiment saisie au bon début pour faire des investigations nécessaires. Vous avez certainement dû entendre plusieurs bruits par rapport à des cas suspects à Kinshasa, mais c'est parce que le système de prévention, le système de triage est mis en place et ce système marche. C'est pourquoi chaque fois on dit il y a un cas à l'hôpital Mamayemo, il y a un cas dans tel hôpital. Mais ça, c'est très important parce que pour la prévention, il faut que cette mesure-là marche pour que dès qu'il y a un cas, qu'on puisse saisir. Ça veut dire que le système marche effectivement actuellement ici à Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Bernardine Diambo Mwanda. Souvent les collègues m'appellent Maman Diambo ou Maman Bernardine. Je suis mariée et mère de 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles et aussi 3 petits-fils. Vous comprenez que je suis une petite mamie, n'est-ce pas? Et je suis détentrice d'un diplôme d'État en section commerciale, mais avant, j'avais d'abord fait les études professionnelles en secrétariat où j'étais formée comme secrétaire de direction. J'ai également suivi des cours de comptabilité par correspondance. À cette époque, les cours nous parvenaient par la voie postale. Là, nous sommes à Mwanda, au Congo central. Voilà, à notre époque, lorsque vous finissez les études, directement on vous embauche dans une entreprise. Et donc, nous n'avons jamais connu le chômage. Comme j'avais fait mon stage professionnel dans une compagnie pétrolière Sosir, aujourd'hui Sosir, j'ai été engagé comme secrétaire dans une section commerciale dirigée par M. Kenda, qui nous a d'ailleurs quitté, paix à son âme. Après quelques années, j'ai quitté la Sosir pour Sinip, aujourd'hui DGM. Là, j'avais assumé le poste de secrétaire particulière de M. Cyril Nzumbuningouye, lui aussi nous a déjà quitté et paix aussi à son âme. Quelques années plus tard, en 1987, l'Office national du tourisme ONT est venu ouvrir ses portes à Mwanda. J'ai postulé et j'ai été retenu comme secrétaire de direction et comptable. En 1995, mon mari, qui travaille à la RVA jusqu'à aujourd'hui, était invité à Goma, au Nord Kivu. Et directement, moi aussi, ma direction générale de l'ONT à Kinshasa m'avait affecté à Goma. Comme l'oblige la loi congolaise, bien sûr, la femme doit suivre son mari partout où il va. Et comme l'Office national du tourisme existait à Goma, je n'avais pas eu de problème. À Goma, j'étais promis chef d'agence. Alors, comment je suis arrivé à la MONUSCO, notamment à la Radio Kapi? Vraiment, c'est une longue histoire. C'était lorsque mon agence a connu des problèmes avec l'arrivée de l'AFDEL, puis RCD. Et donc, comme l'ONT dépendait de Kinshasa, on était vraiment coupé de notre direction générale. Là, je devrais chercher ailleurs. À chaque fois que le bus de dispatch de la MONUSCO passait vers chez moi, moi je me disais, tiens, moi aussi je dois travailler à la MONUSCO. Et à l'ouverture de l'antenne de Radio Kapi Goma, là j'étais intéressé de faire le Kikongo. Mais comment y parvenir parce que je n'avais jamais fait le journalisme ou travaillé dans un média quelconque. Alors chaque matin, j'avais mon cahier et mon stylo. J'écrivais tous les mots difficiles et je m'exerçais en lisant à haute voix. Et souvent, c'était Jean Ngoa Makoko qui présentait le journal à Kikongo. Chaque 8h et 19h, heure de l'Est, j'étais toujours branché pour suivre les Kikongo, voire même les Lingala. Et au mois de mai, je crois, on a lancé l'offre d'emploi à la Radio Kapi pour engager un traducteur en langue Kikongo et Lingala. Voilà, la chance m'a souri et j'étais retenu comme traductrice en Kikongo et Lingala depuis le mois d'août 2002. J'ai suivi plusieurs formations en journalisme avec les différents formateurs par le biais de la Fondation Hirondelle. Aussi, je me suis inscrit à l'université de Sekromad, Kinik Goma, pour faire la communication. Quelques années plus tard, je suis devenu journaliste et reporter. Voilà, je m'intéresse à faire des magazines à caractère social. Là, vraiment, j'adore parler des faits sociaux et faire entendre la voix des femmes. Mon temps libre en tant que mère, je m'occupe du ménage, mais aussi je vais à l'église. J'aime écouter les chansons religieuses. Je suis Muyombe du Congo central. Là, c'est les Pondou Madesso et les Makayabo accompagnés de riz. C'est mon plat préféré. Après la MONUSCO, je crois, avec l'aide du Seigneur, je compte monter une entreprise familiale. Voilà tout.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous des Nations Unies à noter dans vos agendas. Le 4 juin, c'est la journée internationale des enfants victimes d'agressions. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et le 9 juin, c'est la journée internationale des archives. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Mimi Kindou, reportage Honoré Missenga, à la coordination, réalisation et reportage Jean-Pierre Lali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se dit à bientôt sur Radio Capi. Portez-vous bien. Ciao.